Moi, c'est André de Mbujima au Kassai Oriental. J'ai refusé totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la pays. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs. Au cours de ce mois de février 2025, la pression internationale s'est accentuée sur le Rwanda pour son implication dans l'agression à l'est de la RDC à travers son soutien militaire M23. C'est le cas de l'Union européenne qui a décidé de suspendre les consultations avec le Rwanda sur les questions de défense, mais aussi de le réexamen du mémorandum d'entente avec le Rwanda concernant les matières premières critiques. D'autre part, le Bureau des affaires étrangères du Commonwealth et du développement a annoncé suspendre son aide financière directe en faveur du gouvernement rwandais jusqu'à ce que des progrès significatifs soient enregistrés sur le terrain des hostilités dans l'est de la RDC. Londres attend également limiter ses activités de promotion commerciale avec le Rwanda et cesser sa participation de haut niveau aux événements organisés par le gouvernement rwandais. Pour sa part, la Belgique a annoncé la suspension de sa coopération bilatérale et militaire avec le Rwanda. Quant aux États-Unis, ils ont annoncé des sanctions contre James Kabarebe, général rwandais à la retraite et ministre de la coopération régionale, ainsi que Laurence Kanyuka, porte-parole civile du M23, pour leur rôle dans les conflits à l'est de la RDC. Que pensez-vous de cette grande mesure de la communauté internationale face à l'agression rwandaise à l'est de la RDC? Vos réactions sont les bienvenues sur la page Facebook Parole aux auditeurs. Pour aussi écrire à l'adresse pia@radiocapi.net ou réagir dans le groupe WhatsApp de Parole aux auditeurs. Moi aussi, intervenir en direct en composant les zones 971-680-79. Pierre Dessino est à la mise en nom de ce magazine. Julie Feza, Bongonda et Élisée Kavira sur la réalisation et la coordination au micro. C'est Marcel Ngomombala, tout à tous. Et sans condition d'écoute de ce nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Réagissez en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par internet en écrivant à pa@radiocapi.net.
Encore une fois, merci de votre fidélité à Radio Capi, la fréquence de la PIC. Comme toujours, lorsque le sujet est posté, vous êtes nombreux à réagir. On vous dit merci. On aura l'occasion de lire quelques-unes de vos réactions tout au long de ce magazine. Et bien entendu, le standard sera ouvert pour ceux qui aimeraient intervenir en direct en composant les zones 9-7-6-80-79. J'ai déjà avec moi. Avant de dire bonjour à mon invité qui est déjà avec moi dans ce studio, j'ai par exemple cette réaction de Olin Odiane de Kinshasa qui nous écrit: selon mes analyses, je ne suis pas convaincu de ses intentions de sanctions. Les Européens sont en train de nous endormir. Malheureusement, le gouvernement pense qu'il va récupérer les villes et localités. Il faut restaurer la bonne gouvernance. Il faut sanctionner ceux qui ont pillé les caisses de l'État en effectuant des achats sur facture, y compris les membres de la famille. Au niveau du ministère de la Défense, on nous parle de 5 000 hommes à l'Est, alors qu'il ne sont que 13 000 dossiers mercenaires. Les sanctions devront tomber. Les Européens prennent ces sanctions juste pour distraire les autorités congolaises, alors que sur le terrain, le M23 consolide sa position et progresse. Un grand pas, c'est qui me revient à poser quelques questions. Pourquoi Kinshasa refuse de négocier avec ses agresseurs? Trouve-t-il que ces sanctions sont sérieuses alors que sur le terrain, rien n'échange? Toute guerre se termine toujours par la négociation. La population en a déjà marre. Voilà, ça c'est la réaction de Olin Odiane depuis Kinshasa. Une autre réaction, c'est celle de Maître Ouli Mwengu Joseph depuis Bukavu. Ces mesures sont encouragées car sur le plan diplomatique, ça montre que la RDC est en bon terme avec le monde, mais ces mesures nécessitent plusieurs questionnements. Pourquoi n'avaient pas été prises depuis longtemps que le M23 et l'AFC et les forces rwandaises ont attaqué Bounagana? C'est là que la RDC a lancé un cri d'alarme à la communauté internationale. Selon moi, j'appelle le gouvernement congolais n'est pas se fier seulement à ses décisions pour croire qu'elle a déjà gagné la bataille diplomatique. Voilà, beaucoup de réactions. Nous vous disons merci, mais pour l'instant, on va se tourner vers notre invité. J'ai le plaisir de recevoir dans ces studios Christian Molika. Bonjour Christian.
Bonjour Marcel.
Ravi de vous revoir, ça fait un moment quand même. Hein?
Oui, effectivement, ça fait longtemps que je ne suis plus revenu sur votre plateau. C'est donc une opportunité de vous honorer par ma présence et également répondre, interagir avec tous ceux qui vont participer à cette émission.
Voilà, certainement, c'est aussi pour le plaisir de nos nombreux auditeurs et internautes, parce que ce magazine est également direct sur YouTube, Facebook et X. Radio Capi, vous êtes analyste politique, président de la dynamique de politologue de la RDC, spécialiste de la région du Grand Lac. Voilà. Est-ce qu'on peut déjà dire que, avec ces 30 mesures de la communauté internationale, c'est déjà quand même, c'est le front diplomatique, une véritable avancée?
Il faut quand même reconnaître que c'est un levier positif.
Ouais.
Parce qu'on voit le contexte sécuritaire depuis le début de l'année, le Congo a engagé un certain nombre de défaites, notamment militaires. Et ce levier diplomatique vient en quelque sorte estomper la série des mauvaises nouvelles que nous recevions depuis le début de l'année. Donc effectivement, ce sont des bonnes nouvelles. C'est le signe qu'il y a une forme d'évolution dans la compréhension et la perception du conflit au niveau international, que de pays aussi importants comme les États-Unis et la Grande-Bretagne ont revisité pratiquement leur position vis-à-vis du Congo et ont été pratiquement les premiers à prendre des sanctions. Et donc maintenant, c'est progressif. Il y a un tempo qui est un temps de la diplomatie qui ne correspond pas toujours avec le tempo du quotidien des gens.
Oui.
Et donc il y a un décalage entre les décisions et ce que les gens voient sur le terrain. Et puis après, il faudra évaluer quelle sera l'incidence de ces décisions sur la politique rwandaise. Est-ce que ces sanctions sont suffisamment fortes pour faire plier Kigali, ou est-ce que ce sont des sanctions qui nous rassurent mais qui n'auront pas d'impact à long terme? On verra sur le terrain. C'est pas la première fois que le Conseil de sécurité se réunit, c'est pour qu'ils prennent des sanctions. Hein. Il n'y a qu'à suivre les conflits israélo-palestiniens, dont il y a énormément de résolutions qui ont été prises et qui n'ont pas forcément impacté la réalité. Donc qu'on ne se leurre pas en pensant que ça suffit. C'est un levier. À ce levier, il faut ajouter d'autres leviers, comme une dynamique interne, de rassembler le Congolais, comme une dynamique militaire, en reprenant les capacités des contraintes par l'armée, et pousser plus loin les mesures diplomatiques pour que ça se concrétise sur le terrain, que ça change réellement le vécu des gens.
Alors, il y a aussi cette grande question qu'il faudra se poser. D'une part, il y a ces sanctions de la communauté internationale vis-à-vis du Rwanda, mais d'autre part également, on sait qu'avec le pourparler, et que ce soit au niveau de la SADC, que ce soit au niveau de l'EAC, on demande à ce que qu'il y ait en tout cas dans la mesure du possible comment le dialogue entre les deux parties, mais on sait qu'il y a également l'impasse.
Effectivement, il y a cet appel là à prôner d'autres solutions,
oui.
Pas uniquement les solutions militaires, les solutions négociées. Autant on propose des solutions négociées au niveau régional, c'était le cas du processus de Nairobi et Luanda, autant aujourd'hui on appelle Kinshasa à soutenir un processus politique à l'interne. La grande difficulté, c'est que pendant très longtemps, il n'y avait pas sous la table des propositions concrètes venant de Kinshasa, donc du gouvernement, sur un processus interne. Et qu'il n'y avait que la démarche de la CENCO-SCC, qui était la seule proposition valable sur la table qui semblait rassurer tout le monde.
Mais une démarche aussi qui ne fait pas l'unanimité.
Effectivement, la grande difficulté, c'est que la partie gouvernementale exprime beaucoup de méfiance vis-à-vis de l'agenda de la CENCO, qui reste l'initiative la plus crédible sur la table aujourd'hui. Le président a récemment parlé d'une autre initiative, parce que quand il parle de consultation lancée par son conseil spécial, ça dit qu'il y a également une autre initiative qui veut se mettre en place, mais on attend de Kinshasa des gestes concrets d'ouverture, et qui va au-delà d'un simple gouvernement d'union, mais des gestes concrets d'ouverture qui permettent d'apaiser les fronts intérieurs et ensuite de rassembler pour pouvoir mieux s'approcher des négociations à l'international également.
Voilà, il faut également, comme vous l'avez dit, au niveau interne, de voir comment rapprocher, en tout cas, toutes les tendances, parce que là également, il faut se dire qu'on a suivi avec le président qui a appelé tous les Congolais à mobilisation générale. Il a également, des parts et d'autres, c'est qu'il estime que c'est le moment pour les Congolais d'être tous unis face à une seule cause, c'est-à-dire sauver le pays, ne pas laisser celui qui est considéré comme l'ennemi, il faut le dire, le Rwanda, face à tout ce qu'il a comme intérêt à ce que la guerre persiste à l'est de la RDC. Alors, une autre grande question, c'est celle-là. On dit qu'il faut taire nos divergences de vues, essayer tous de regarder dans la même direction, mais apparemment également, il y a des pesanteurs.
Il y en a énormément, parce que nous avons détricoté la cohésion en interne sur beaucoup d'aspects. Si vous prenez, par exemple, aujourd'hui, le processus électoral 2023 a plus divisé qu'unit les Congolais. Les résultats ont été tels que publiés, mais beaucoup d'acteurs Vous prenez par exemple le PPRD de Kabila n'a pris pas part au processus. Vous avez ceux qui ont manifesté des réticences sur les résultats. Et donc au-delà même de ce processus-là, vous avez une gouvernance politique à l'interne qui divise, que ce soit sur la liberté d'expression, le retraitement de l'espace public, une forme d'autoritarisme qui réduit la marge de certains opposants. Tout cela a participé en quelque sorte à crisper le jeu politique en interne. Et malheureusement, lorsque le jeu politique en interne est crispé, le réflexe congolais depuis maintenant 20 ans, c'est de chercher à rejoindre les camps de ceux qui s'opposent à la République. Vous avez donc des opposants, certains opposants qui rejoignent une dynamique armée. Hier, c'était les cas des Lumbala ou des autres noms de la vérité des urnes. Aujourd'hui, on parle de Franck Diongo, on parle des Mamba, qui sont des opposants à l'intérieur. Donc, vous avez cette dynamique-là également qu'il faut savoir gérer. Et donc, il faut aller à rechercher les éléments qui ne justifient pas, mais qui sont à l'origine de ce choix anti-républicain de rejoindre de prendre les armes contre la République. Pour que nous sortions à un moment donné de ce cycle-là, qui était celle du recours aux armes comme moyen d'expression politique. Et que nous revenions, le but de 2006 des élections, c'était cela. C'est-à-dire de sortir de la logique des armes comme moyen de régler la politique et de ne se confier uniquement que sur un processus civil qui est un processus électoral. C'est pour ça qu'on a fait la transition de 2003 à 2006 et que nous avons eu des élections de 2006 pour que la voie démocratique soit la seule voie d'accès au pouvoir. Manifestement, nous sommes en train de tourner en rond. Ça veut dire que nous n'avons pas tiré les leçons du passé, nous répétons les mêmes erreurs, et 2025, nous sommes pratiquement en train d'agir comme en 2023, avec la même dynamique du recours aux armes comme moyen d'accéder au pouvoir. Si nous voulons en sortir, il faut que nous ayons le courage de dire la vérité en face, de s'asseoir comme fils d'un pays, de mettre en place un pacte républicain qui veut que l'espace démocratique soit ouvert à tous, sans distinction, que le jeu politique soit un jeu sain, que l'alternance soit garantie, que ceux qui prennent le pouvoir le prennent dans des conditions minimalement acceptées, que ceux qui perdent le pouvoir l'acceptent pour l'intérêt de la République, et dans ces conditions-là, vous avez un pacte républicain que tout le monde partage. Que personne ne prenne les armes contre la République, ne s'allie aux ennemis de la République en justifiant l'agression ou en les légitimant. Et lorsque vous avez ce genre de pacte-là, alors vous êtes un peu plus fort. Mais à chaque fois que nous serons divisés en interne, eh bien nous ouvrons la porte à l'ennemi qui facilement nous prendra par le flanc.
Donc pour vous, Christian Moleka, les choses sont claires, les adines sont ces sanctions de la communauté internationale vis-à-vis du Rwanda qu'il faut encourager, mais faudra-t-il encore que cela puisse avoir de l'effet sur le terrain, c'est-à-dire avec la cessation des hostilités, et d'autre part, il faut au niveau interne qu'on pense aussi comment se réorganiser pour être tous unis face à l'agression.
Oui, mais il y a une autre chose, peut-être une chose à ajouter sur les sanctions, c'est que nous, Congo, nous entendons des autres qui sanctionnent le Rwanda, ce qui est une bonne chose. Mais en même temps, il faut qu'à un moment donné, comme République, nous apprenions à anticiper les choses et que nous ne subissons pas l'histoire. Ceux qui suivent les questions de géopolitique mondiale savent que le monde est à un tournant important en transition énergétique, qu'un continent comme l'Europe s'est coupé lui-même du suite de la guerre de la Russie, de la guerre de l'Ukraine, des conditions d'accès à l'énergie bon marché russe, et s'est tourné aujourd'hui vers le GNLF américain, et que l'Europe est en train de rechercher à sécuriser son accès au réapprovisionnement dans notre continent pour ne plus dépendre à la fois de la Russie, mais diversifier également vis-à-vis des États-Unis. Mais nous, Congolais, nous anticipons pas. Nous connaissons les enjeux. Comment nous anticipons? En nous proposant comme une offre. Et si les autres se positionnent mieux que nous, ça, c'est à nos dépens. Donc, à un moment donné, il y a notre responsabilité dans la capacité à lire les grands enjeux et à nous positionner en anticipant les choses. Parce que derrière cette guerre, les enjeux sont énergétiques. Les enjeux sont économiques. Et donc, si nous ne comprenons pas, nous ne lisons pas suffisamment les enjeux et que nous ne nous positionnons pas, nous subirons toujours. C'est ça aussi la dimension qu'il nous faut construire. Et notre proposition doit aller au-delà des demandes de sanctions. Notre proposition doit également aller en termes de réponse aux propositions stratégiques des États. Entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. L'Europe ne va pas sanctionner pour nous faire plaisir. L'Europe va sanctionner lorsqu'il rencontrera une convergence d'intérêts entre ce que elle recherche et ce que nous pouvons offrir. C'est ça aussi notre intérêt, à avoir cette capacité géopolitique et géostratégique à rencontrer les enjeux et pas uniquement à mener un discours presque larmoyant ou nous demandant qu'on sanctionne parce que nous on nous tape.
Vous faites bien de le rappeler, Christian Mollica, entre les États, il n'y a que des intérêts. Et on est en train de se voir, si ça se passe aujourd'hui, depuis l'arrivée des Trump, Donald Trump, aux affaires aux États-Unis avec l'Europe. On voit plus, il y a les intérêts. Chacun de pays cherche à protéger ses intérêts. Donc c'est très, très important pour la RDC, au-delà de tout ce qui est en train de se passer maintenant avec cette agression rwandaise en RDC, d'anticiper déjà. Et vous faites bien de le rappeler. Bienvenue si vous nous rejoignez sur la fréquence de la paix, c'est votre magazine, les champs citoyens, parole aux auditeurs. Nous parlons aujourd'hui de ce train des mesures de la communauté internationale face à l'agression rwandaise à l'est de la RDC. Et si vous voulez intervenir, le numéro d'appel, c'est les zones en 9716-80-59.
Allô? Allô? Allô?
C'est parce que Radio Capi unit le Congo que vous êtes concerné par cette émission.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour. En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vous.
Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable dans ces pays n'existe pas.
Parole aux auditeurs, une émission à réécouter du lundi au vendredi à 21h.
Voilà, c'est parti pour le premier auditeur qui nous appelle depuis Kinshasa, c'est Félicien Tchitouma. Félicien, vous êtes en ligne, on vous écoute.
Oui, merci beaucoup, messieurs les journalistes, pour la parole que vous m'accordiez. Et nous disons aussi bonjour à notre invité qui est dans les studios. Alors, dans le cadre de la thématique d'aujourd'hui, nous pensons que c'est quand même une bonne chose où nous avons vu la communauté internationale qui, jadis, je peux dire qu'elle était des mèches avec les Rwandais, parce que lorsque nous analysons les événements, nous avons compris qu'avant cette guerre arrive jusqu'à ce niveau, nous avons compris que la communauté internationale était de mèche avec les Rwandais, mais subitement, nous avons constaté un revirement de la communauté internationale qui a compris que les Rwandais constituaient une menace pour la paix et qu'elle devait prendre la responsabilité de pouvoir sanctionner les Rwandais. Alors, ce qui est une bonne chose, nous avons vu les États-Unis prendre des sanctions ciblées sur James Kabarebe et Lawrence Kanyuka, et la Belgique aussi faire la même chose, couper l'aide financière à l'égard du Rwanda. Alors, il faut d'abord comprendre que les sanctions en droit international ont comme objectif de pouvoir modifier le comportement d'un agent et sa capacité de manœuvre et de pouvoir l'affaiblir et de pouvoir les dénoncer publiquement parce que cet agent constitue une menace pour la paix. Alors, déjà, ce paquet de sanctions constitue déjà un avancé majeur et c'est à ce titre-là que nous devons d'abord remercier le gouvernement de la République pour le travail abattu, pour sa diplomatie agissante qui est en train déjà de produire les effets. Alors, le gouvernement ne doit pas s'atteler seulement à regarder seulement les sanctions qui ont été exécutées à l'égard du Rwanda, mais le gouvernement doit aussi comprendre qu'elle a la responsabilité première de pouvoir sécuriser sa propre population. Alors, c'est dans ce titre-là que je demanderai au gouvernement de mettre tous les moyens nécessaires pour pouvoir renforcer la capacité de nos FRDC. Et d'ailleurs, selon les informations qui nous viennent même là au nord Kivu et au sud Kivu, il y a même certains territoires où les M23 sont seulement minimum. Alors, pourquoi les gouvernements ne savent pas déjà prendre les mesures pour commencer déjà à récupérer certains territoires où les M23 ne sont pas visibles? Alors, nous demandons déjà au ministre de la Défense et au gouvernement de prendre déjà des mesures pour commencer déjà à récupérer les territoires où les M23 ne sont pas vraiment visibles, mais ces territoires-là restent seulement abandonnés à leur triste sort.
Voilà, alors, merci. Ben, je crois que vous avez dit l'essentiel à Félicien Tshituma. Merci d'avoir appelé depuis Kinshasa, vous et aussi vous saluer en tout cas toutes ces sanctions de la communauté internationale vers le Rwanda, mais vous demandez également au gouvernement de, d'être vigilant, c'est-à-dire de voir comment également ne pas être distrait sur le front militaire. Merci Félicien Tshituma depuis Kinshasa. Sylvain Aguenoff, vous êtes à Magui, on vous écoute.
Bonjour Monsieur Marcel, bonjour aussi à mon frère qui est au studio.
Allez-y, on vous écoute.
Bien, oui, merci. J'allais d'abord dire que le Congo fait honte à l'Afrique. La farce politique, le manque de leadership, le manque de l'excellence, ça fragilise l'image du Congo. Alors, je ne voudrais pas répéter ce que mon estimé invité qui est au studio a déjà dit. Mais je vais dire seulement deux choses et laisser la parole aux autres.
Oui.
Je disais déjà que à cause de la farce politique du Congo, le plus souvent, nous présentons l'image négative du Congo. Oui, on sanctionne les Rwandais et d'autres personnalités qui jouent un rôle important dans la déstabilisation du Congo. Mais comme Christian Moleka l'a dit, qu'est-ce que nous faisons à l'interne? Les politiques publiques congolaises garantissent-elles un leadership, une excellence dans la pratique politique pour stabiliser ces pays? Deuxième chose, et je termine par là. Nous sommes un grand Congo, avec toutes les richesses naturelles. Et nous sommes conscients, pourquoi nous avons des universitaires? Nous sommes conscients que la constitution du futur mondial ne dépend de nous, les Congos. Pourquoi nous avons instauré la prédation des richesses naturelles, la redistribution inéquitable des ressources nationales entre Congolais? Nous construisons une société à double vitesse, dont la moindre, disons, le moindre pourcentage vit une opulence, alors que le grand pourcentage est dans une misère équitable.
Voilà, on a compris, Sylvain, la communication n'est pas très très bonne, mais on a compris, au-delà des sanctions, vous également, vous insistez, c'est aussi le moment pour la RDC de voir comment revoir sa gouvernance à long terme, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions qui se posent autour de la bonne gouvernance dans le pays. Il y a beaucoup, on n'arrête pas de le dire chaque fois, ce sont les intérêts égoïstes qui sont mis en avant-plan plutôt que les intérêts de toute la communauté. Merci Sylvain, depuis Magui Trudon, vous êtes à la province du Lualaba, vous avez la parole.
Ah, bonjour Marcel, bonjour à notre invité et bonjour aussi à tous les auditeurs de la Radio de la Paix. Vraiment, nous sommes très ravis. Moi personnellement, je salue les efforts de la communauté internationale pour toutes ces mesures prises face à l'agression rwandaise à l'est de notre pays, la République démocratique du Congo, un beau pays. Cependant, oh, prendre des décisions, c'est une bonne chose, mais mettre en pratique toutes ces décisions-là en est une autre. Parce que dans notre pays, moi, je pense que la communauté internationale est en train de faire ce que je puis appeler une farce. Parce que pourquoi? À mon avis, ce n'est pas pour la première fois que la communauté internationale puisse prendre de telles décisions. Mais où est-ce qu'ils amènent ces décisions-là? Je peux reculer en arrière. La même décision a été prise. Parce que le Congo, ce n'est pas la première fois que nous sommes agressés par le Rwanda. Et toute la communauté internationale sait que c'est vrai, c'est le Rwanda. Notre pays, au travers du président de la République, a commencé déjà à parler de la communauté internationale, à interpeller cette communauté. Ça n'a jamais été. C'est aujourd'hui, quand les histoires vont maintenant s'aggraver, que la communauté internationale fait semblant. Moi, je pense que c'est une façon de faire semblant. Moussa Laurent Désiré Kabila, en 1997, était venu pour chasser Mobutu à l'époque. Est-ce que cette communauté internationale était restée bouche bée? Non. La réponse est qu'elle avait même pris des décisions pour dire voilà, c'est le Rwanda, parce que c'est le Rwanda qui accompagnait Moussa Laurent Désiré Kabila, et ils ont avancé, bien qu'ils avaient pris des décisions, mais ils ont avancé jusqu'à ce qu'ils sont arrivés à Kinshasa pour chasser Mobutu Sese Kukumbwe Ndwazabanga. Ce qui se passe aujourd'hui, moi je pense que ce n'est pas quelque chose que moi je peux dire que c'est vrai, cette décision sera prise en compte. Qu'est-ce qui nous rassure? Parce qu'aujourd'hui, les intérêts de la communauté internationale du Rwanda pour nous piller. À mon avis, je voudrais donner une piste de solution. Bon, si ce n'est pas moi qui peux le faire, mais au moins j'ai tenté d'envisager. Notre pays doit tirer attention avec ces déclarations de la communauté internationale. C'est une façon de nous distraire. Ce que je vais demander au président de la République ou même à tout Congolais, c'est comprendre que ce n'est pas la première fois qu'on nous flatte. Ce que nous devons faire, c'est de dire à la communauté internationale, vous avez pris des décisions. Maintenant, dans moins de temps, qu'on puisse voir ces décisions être mises en place. C'est-à-dire, si on a sanctionné, si on a fait ceci, cela, qu'est-ce qui va prouver que réellement cela est fait? Parce que le Congo est en train d'être agressé jusqu'à preuve du contraire à ce jour d'aujourd'hui, après avoir tenu ce discours-là. Qu'est-ce qui a été fait? Rien. Et les rebelles continuent à nous attaquer. Et donc, nous ne pouvons pas commencer à suivre cette communauté internationale, d'autant plus que la fois passée, nous sommes souverains, nous allons organiser nous-mêmes les élections. Lorsqu'il y a la guerre, nous comptons sur la communauté internationale, nous plénifions que la communauté internationale vienne nous aider. Est-ce que nous n'avons pas des décisions à l'interne que nous pouvons prendre en dehors de la communauté internationale? Pouvons-nous attendre que la communauté internationale vienne terminer la guerre à l'Est? Si cela sera ce que nous attendons, c'est que nous continuerons toujours à plénifier. Nous devons nous mettre en unité nationale, comme le président lui-même l'a annoncé. En dehors de cette prise de décision de la communauté internationale, qu'on commence aussi à nous consulter entre nous. D'où provient le problème? Parce que les Congolais entre nous, nous ne devons pas nous tuer. Voilà au moins ce que j'allais donner comme...
Merci. Merci beaucoup Tridon depuis Lualaba. Ornicar Banza, vous êtes à Likassi, on vous écoute et puis on va revenir à notre invité, Christian Moleka. Ornicar Banza, depuis Likassi, vous avez la parole.
Merci beaucoup Monsieur Marcel. Bonjour Monsieur Marcel, bonjour à notre invité.
Bonjour Monsieur.
Bonjour aussi aux auditeurs de la radio Kati. Réellement, nous avons tous constaté nécessairement cette pression internationale que moi je qualifie d'une pression apparente sur le Rwanda. Nécessairement, nous estimons que c'est parce que notre ministre des Affaires étrangères a eu tout le temps de circuler et nécessairement de demander ces sanctions-là, nécessairement, en fait, au niveau de la communauté internationale. Mais la grande crainte que je suis en train d'exprimer, je crois que la communauté internationale n'est pas en train de répondre selon mes excuses, permettez que je fasse référence à la Bible, selon ce qui est écrit dans Proverbe 26:5. Nécessairement, la réalité des choses, c'est que la communauté internationale a toujours été trop hypocrite et même si vous observez très bien ce qu'elle vient de faire actuellement, c'est que certaines personnes estiment une victoire que moi je suis en train de dire qu'il faut franchement éviter, c'est pas une victoire, mais par contre c'est un bon lit qu'ils ont étalé pour nous endormir. Je prends l'exemple de ce qu'a fait l'Union européenne. L'Union européenne vous dit qu'elle est en train de suspendre nécessairement cette consultation avec le Rwanda, bien sûr, dans la matière de la défense. Mais je me dis, pourquoi ne pas annuler? Parce que l'Union européenne est suffisamment informée que c'est le Rwanda qui est en train de nous agresser. Et si l'Union européenne est en train de réexaminer sur les minerais stratégiques, leur accord avec le Rwanda sur les minerais stratégiques, et ces minerais stratégiques sont les minerais de la République démocratique du Congo, pourquoi l'Union européenne ne pourra pas décider carrément d'annuler avec le Rwanda et de venir traiter directement avec nous-mêmes producteurs de ces minerais? Ce qui prouve à suffisance qu'il y a nécessairement de l'hypocrisie et on doit se méfier suffisamment de leurs sanctions. Ils le font pour nous plaire et pour nous endormir. Si vous prenez encore le bureau de Cameron Holt qui est en train de parler sur la suspension directe de l'aide financière, mais quand on vous dit qu'il y a suspension directe, ce qui voudrait dire encore qu'on peut passer par une aide financière indirecte. Et ce qui est plus pire, qui me fait très mal, c'est que même notre pays colonisateur, qui est la Belgique, qui s'est permis ou qui s'est permis de signer des accords bilatérales dans le cadre militaire avec les pays agresseurs, qui s'est dit encore qu'il a suspendu. Mais la Belgique peut suspendre sur base de quoi? Pourquoi ne pas annuler? Et toute cette communauté internationale, dans tous ceux qui sont en train de suspendre comme activité avec le Rwanda, moi je crois que si cette communauté internationale était franche et sincère...
La communication s'y gâte pas. Apparemment, on a compris l'essentiel de l'intervention de Ornicar Banza, qui lui se méfie de toutes ces sanctions de la communauté internationale et qui qui a également insisté sur le fait que il est temps pour la RDC à de ne pas se leurrer au-delà de toutes ces sanctions. Il est revenu sur le problème d'organisation à l'interne, mais aussi il a insisté pour demander pourquoi, lorsqu'on sait que c'est la RDC qui produit tous ces minerais critiques, pourquoi ne pas les acheter directement avec la RDC plutôt que de passer par le Rwanda. Voilà, on va revenir, il y a Alain Moutiki de Bukavu qui aimerait intervenir, mais donne-nous d'abord l'occasion à notre invité de réagir par rapport à toutes ces interventions, et puis on va revenir au standard, et puis on va écouter les réactions avec Julie Fizabongona.
Beaucoup de réactions, je comprends que les Congolais soient si intéressés sur la question, mais il faut quand même que nous revenions à l'histoire. Il y a une forme de responsabilité de la communauté internationale, c'est ce qui s'est passé en 94. Avec le génocide de Tutsi Hutu, ce qui fait que pendant très longtemps il y avait une forme d'omerta, de silence sur la question congolaise, parce que on a voulu faire une forme de compassion sur le Rwanda qui nous a été préjudiciable. Au nom du génocide de Tutsi Hutu, on a laissé faire des choses parce que certains États avaient une forme, je dirais, de reproche de conscience. Ils s'est reproché de leur responsabilité. On a fermé les yeux sur les abus, et pendant très longtemps, nous avons subi cet omerta-là sur le fait qu'on ne veut pas parler sur ces questions-là. Malheureusement, ou heureusement pour nous plutôt, 30 ans après, les consciences commencent à plus ou moins à revenir à la raison, et les choses évoluent. Donc il faut tenir compte de ça. Deuxièmement, c'est pas la première fois, et tout le monde l'a, beaucoup l'ont rappelé, qu'il y a des sanctions. En 2013 déjà, les États-Unis ont sanctionné le Rwanda, l'Union européenne a sanctionné le Rwanda, certains pays européens ont sanctionné le Rwanda en 2013. C'est d'ailleurs parmi les raisons pour lesquelles nous avions réussi à vaincre militairement le M23, parce qu'il y avait également des pressions sur l'économie et financière plutôt sur le Rwanda. En 2023, on a même sanctionné certains officiers rwandais et congolais. Donc là, c'est pas nouveau qu'il y ait des sanctions. Par contre, je partage l'avis, je crois, de Trident. C'est que la grande menace ou la grande inquiétude, c'est que les sanctions nous conduisent à une forme d'inertie. Cette inertie sera un gel de conflit qui va instaurer un statu quo qui est une forme de balcanisation de fait, parce que vous aurez une partie qui ne sera pas administrée par Kinshasa et une partie qui sera administrée par Kinshasa. Donc ça, c'est la grosse crainte, que nous ayons une inertie. La logique des sanctions ou des pressions, c'est qu'il ne faut pas relâcher. C'est au Congo de maintenir la pression. Parce que la pression, quand vous relâchez la pression, eh bien vous retournez à zéro. Il faut maintenir cette pression diplomatique. Il faut maintenir en haleine ces grandes capitales-là à travers un travail diplomatique entreprenant et permanent pour que qu'il n'y ait pas ce relâchement. Ça, c'est un travail que le gouvernement doit faire. Et après, pourquoi l'Union européenne n'a pas signé avec nous? Mais l'Union européenne a signé avec nous. Je rappelle que le Congo a signé le même MOU que le Rwanda a signé avec l'Union européenne. Le Congo l'a également signé en 2023. Je crois que c'était en octobre 2023. Le MOU Union européenne RDC. Malheureusement, on a mis beaucoup de temps pour le mettre en œuvre. Et l'année passée, je crois en décembre 2024, notre gouvernement est allé, je crois le ministre des Mines est allé en Belgique pour lancer la feuille de route. Donc entre octobre 2023 jusqu'en décembre 2024, le MOU était signé, il était là, nous n'avions pas avancé. Donc c'est aussi à nous en tant que Congo de savoir profiter des opportunités qui se présentent à nous. Parce que nous avons le même MOU. La Belgique en tant qu'État a le droit de contracter des relations bilatérales avec tout le monde. Nous ne pouvons pas dire aux Belges arrêtez vos intérêts au Rwanda parce que c'est le Congo. Non. Et en tant qu'État, ils sont libres d'avoir des relations. D'ailleurs, le Congo lui-même, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas rompu diplomatiquement avec le Rwanda. Donc, c'est pour dire que d'autres États ont le même droit. C'est à nous de savoir bien négocier nos intérêts à l'international.
Mais il a tout de même suspension de relations diplomatiques avec le Rwanda. On a suspendu
oui, suspension, c'est pas rupture. Il n'y a pas de rupture diplomatique entre le Congo et le Rwanda. Donc, il y a suspension, mais il n'y a pas rupture. Donc, nous ne pouvons pas demander aux autres de faire ce que nous-mêmes, comme État, nous n'avons pas encore fait. Donc, si nous voulons que les autres nous suivent, que le Congo commence par rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda, avec fermeture d'ambassade, et puis après, les autres feront. Nous, Congo, nous n'avons pas fermé les ambassades rwandaises, ils étaient encore sur nous, même s'il n'y a pas d'ambassadeur, mais les services consulaires fonctionnaient. Donc, le Congo n'a pas rompu les relations diplomatiques. Pourquoi nous demandons aux autres de faire ce que le Congo n'a pas fait? Donc c'est à nous de donner l'exemple. Le leadership en interne, Sylvain Maagi parlait de leadership. Oui, je suis d'accord avec lui. C'est que notre vrai problème, notre vrai défi de mon point de vue, est un problème de gouvernance à l'intérieur. Nous avons liquéfié l'État. puisque la sécurité est un domaine régalien, est un domaine de souveraineté. Nous avons tellement liquéfié l'État depuis 1960 qu'aujourd'hui, l'État est en incapacité d'exercer sa souveraineté. Et lorsque je parle d'exercer sa souveraineté, ce n'est pas uniquement au niveau militaire. Je vais rappeler en fait, nous avons nommé les athées depuis novembre 2022. Les athées sont impayés depuis 2 ans. La République a nommé des athées depuis novembre 2022 et ça fait 2 ans que les athées sont impayés. Comment pensez-vous faire de la sécurité si ceux qui sont censés faire l'itinérance des territoires, de remonter les informations, ne sont pas dans les conditions de travail? Je suis revenu plus d'une fois sur votre plateau pour vous dire que les chefs de rue n'ont pas de statut. Les chefs de rue n'ont pas de statut. Ça dit qu'ils ne sont pas payés. Mais comment voulez-vous faire remonter l'information si le point de départ, qui est la rue, a un personnel qui n'est pas pris en charge par l'État? Ça, c'est nous à l'intérieur. Et à un moment donné, il faut que nous nous regardions en face avec courage pour dire que notre façon de gouverner à l'intérieur ne rassure pas. Nous avons signé l'accord cadre d'Addis Abeba depuis 2013. L'accord cadre pose le principe des réformes du secteur de sécurité. L'honorable Henri Thomas Lokondo, d'heureuse mémoire, est mort en laissant une loi sur le renseignement parlement qui n'a jamais été votée. Donc, la réforme de la sécurité, c'est nous. Où en sommes-nous avec la réforme, depuis qu'on a commencé la réforme, jusqu'à aujourd'hui? Prenez le DDR. Depuis 2002, DDR 1, DDR 2, DDR 3, nous sommes aujourd'hui au PDRSS. Où est-ce que nous en sommes? Il y a une grande responsabilité qui nous revient. Donc, commençons nous-mêmes à nous prendre en charge, réglons nos problèmes intérieurs, puis travaillons diplomatiquement à construire les partenariats stratégiques très importants qui nous permettent de vivre dans un environnement hostile. Le monde d'aujourd'hui, en relance internationale, on parle du retour de la force. Le monde tel qu'il évolue, il évolue sur un retour de plus en plus de la force comme élément de diplomatie. Pas uniquement au Congo, il n'y a qu'à regarder le monde d'aujourd'hui, comment le recours à la force intervient de plus en plus comme élément de diplomatie. Donc d'ici, dans le monde à venir, si nous ne travaillons pas à redevenir une force et à savoir agir comme un État dans la diplomatie, eh bien nous subirons le retour de la force d'autres États.
Voilà, merci. On va revoir plutôt Julie Feza Bongonda et Christian Moulikavou. On vous garde encore pour d'autres interventions des auditeurs qui attendent, qui sont en ligne. Julie Feza Bongonda, bonjour, les réactions.
Bonjour Marcel, bonjour Christian Moleka et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment, à tous nos auditeurs et tous ceux qui nous suivent sur X. Alors que la pression internationale sur le Rwanda s'intensifie, les réactions de nos auditeurs montrent que les avis sont partagés entre satisfaction, prudence et scepticisme face à toutes ces sanctions. Des réactions favorables, c'est qu'ils soutiennent les sanctions internationales, c'est qu'ils saluent les mesures comme une reconnaissance officielle du rôle du Rwanda dans l'agression en RDC. C'est le cas de Norbert Kabwanga, qui s'est réjoui des sanctions qui commencent à porter de fruits, observant une accalmie sur plusieurs fronts. Moïse Enovic Kadiata voit ces sanctions comme une avancée, bien qu'il doute de la sincérité totale de la communauté internationale. Albert Albach Kasongo insiste sur la nécessité d'aller plus loin en reconnaissant un génocide et en engageant des poursuites pour crimes de guerre. Pasteur Jérémy Mwamba considère que les sanctions sont importantes pour la RDC, mais souligne qu'elles doivent être appliquées avec fermeté pour éviter qu'elles ne restent symboliques. Félicien Chituma estime que ces sanctions marquent un revirement de la communauté internationale, autrefois complaisante envers le Rwanda. David Ngapogokpa pense que l'RDC doit prendre en main la reconquête de son territoire et ne pas compter uniquement sur ses mesures. Alain Moutiki salue l'avancée diplomatique congolaise, mais rappelle que la communauté internationale a pris des sanctions contre la Russie en Ukraine sans pour autant stopper la guerre. Des réactions neutres, un accueil prudent des attentes élevées. D'autres estiment que ces sanctions sont un pas dans la bonne direction, mais restent insuffisantes. C'est le cas de Georges Kilangalanga qui souligne qu'elles visent à fragiliser les Rwandais, mais doute de leur efficacité à stopper les conflits. Baraka Godefroy insiste sur l'importance de mesures complémentaires comme le renforcement des capacités militaires congolaises. Daniel Manganzi appelle à un soutien international plus concret pour la RDC, notamment en termes d'aide humanitaire et militaire. Maître Ouli Mwengu Kitungano Joseph reste sceptique sur la sincérité des pays occidentaux et appelle la RDC à ne pas se laisser distraire par ses décisions. Rosier Baloba considère que, malgré ces sanctions, seul le peuple congolais peut bâtir son propre avenir et se prendre en charge. Chamikolo Kitwembi Libertin reconnaît l'importance de ces sanctions, mais insiste sur la nécessité de mesures plus fermes pour mettre fin au soutien du Rwanda et au M23. Jackson Kisangani se pose des questions sur l'impact réel de ces sanctions et leur timing, alors que la crise dure depuis longtemps. Trident Yav salue la décision de la communauté internationale, mais doute de son application concrète. Junior Chizainga s'interroge sur l'absence des sanctions directes contre Paul Kagame alors que son implication est prouvée. Léopard Simba doute que ces sanctions suffisent à long terme, estimant que le problème vient aussi des dirigeants congolais. Sincère Emma Kabemba estime que l'RDC doit être prudente face à des sanctions qui pourraient être trompeuses de réactions défavorables, ce qui éprouve le scepticisme et accuse d'hypocrisie la communauté internationale. Les cas de Nasser Jafari, qui estime que ces sanctions arrivent trop tard et ne garantiront pas la paix. Patty Maïmba considère ces mesures comme purement protocolaires, mais sans impact réel sur le terrain. Omer Solia juge que ces pays occidentaux jouent un double jeu et que ces décisions ne visent qu'à distraire les autorités congolaises. Lucien Kazamboula souligne que les suspensions et sanctions sont insuffisantes et que la RDC doit réorganiser son armée. Paulin Odiane Doun est convaincu que les Européens endorment les Congolais avec ces sanctions qui ne changent rien sur le terrain. Franck de Vienne rappelle que la diplomatie est un jeu d'intérêt et qu'il ne faut pas tomber dans les triomphalismes face à ces mesures. Ornicard Banza Molakisi estime que ces décisions sont prises pour plaire à la RDC, mais qu'elles ne seront pas suivies d'actes concrets. Sylvain Agernov pense que la communauté internationale reste hypocrite et que la RDC doit se préparer à une guerre ouverte. Désiré Demahagi insiste sur le fait que seule la négociation permettra de résoudre cette crise durablement. Camille Tuegedeni questionne l'efficacité des sanctions et souligne la nécessité d'un dialogue diplomatique. Joseph Mwamba Mukongo estime que la RDC ne doit pas se réjouir trop vite car ces sanctions risquent de ne produire aucun effet. Malonga rappelle que le peuple congolais doit d'abord se défendre lui-même avant de compter sur l'aide internationale. Enfin, l'inspecteur Jacques Befonga critique le manque de cohérence de ces sanctions qui ne touchent pas directement les intérêts stratégiques du Rwanda.
Voilà.
En conclusion, Marcel, ces résumés de réactions montrent un large éventail d'opinions allant du soutien prudent aux sanctions jusqu'à une forte méfiance envers la communauté internationale. Mais au-delà des déclarations, se pose la question majeure. Ces mesures suffiront-elles réellement à ramener la paix durable à l'est de la RDC?
Voilà, merci Julie Feza Bongonda pour les condensés de toutes ces réactions. Comme toujours, ils sont nombreux à réagir chaque fois qu'on pose des sujets, mais on ne peut pas lire toutes ces réactions. Merci Julie, on vous retrouve prochainement. Avant de retrouver notre invité Christian Moleka, on va prendre le dédier d'un auditeur, Alain Moutiki, qui nous appelle depuis Bukavu, Jérémy Mamba, qui est à Lubumbashi. Alain Moutiki, vous avez la parole.
Bonjour Monsieur Marcel. Bonjour à l'invité, bonjour à tous les millions d'auditeurs qui nous captent à ce net moment. Oui, nous avons salué à sa juste valeur l'avancée de cette diplomatie de notre pays. Mais il faut toujours comprendre que cette même communauté internationale est en train de changer son mode d'action dans les conflits entre la RDC et le Rwanda. D'autant plus que, au regard de toutes ces mesures qui sont prises, il n'y a aucune action sur le terrain. Donc, ça reste toujours sur le plan théorique, mais sur le plan pratique, l'ennemi continue à avancer. L'ennemi continue à massacrer, à faire tout ce qu'il veut sur son chemin. Donc que les Congolais, les patriotes congolais ne puissent pas crier ou jouer au triomphalisme. Mais nous, nous pensons que par rapport à toutes ces sanctions, que ce soit économique ou diplomatique, nous devons faire une analyse comparative par rapport à ce que les Rwandais gagnent dans notre pays et par rapport à tout ce qui lui est retiré comme gain, comme intérêt vis-à-vis de toutes ces diplomaties, de toutes ces sanctions. C'est-à-dire, le Rwanda peut vivre sans ces intérêts qu'il gagnerait auprès de cette communauté internationale et vivre par rapport à ce qu'il tire dans notre pays. Raison pour laquelle nous sommes d'avis que à l'interne, on doit trouver une solution. On doit se mettre ensemble. On doit analyser profondément les questions.
Voilà.
Ces guerres à répétition.
Alain Moutiki, permettez d'avancer, parce que là, vous rejoignez ce que ont également dit vos prédécesseurs, parce qu'il y a deux autres auditeurs qui aimeraient encore intervenir, à vous également. Si je comprends bien, vous dites qu'il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas avoir totalement confiance à ces sanctions de la communauté internationale, mais bien au contraire, au-delà de cela, commencer à voir comment sont gagnés aussi à l'interne. Merci Alain Moutiki depuis Bukavu. Jérémy Mwamba, vous êtes à Lubumbashi. On vous accorde deux minutes, hein, comme ça on va permettre aussi à Jeannot Louembwe qui nous appelle de là-bas de réagir. Vous avez deux minutes, Jérémy Mwamba. Qu'est-ce que vous avez ajouté par rapport à tous ceux qui vous ont précédé?
Oui, bonjour M. Marcel, bonjour également à l'invité. Moi, je voudrais saluer d'abord ces mesures, bien qu'elles soient défigurantes, parce que nous savons, nous n'en sommes pas à ce premier geste. Alors moi, je voudrais dire ceci.
Oui, rapidement,
pour
rapidement.
Pour aller vite, vite, parce que je vous avais dit autrefois que quand vous me demandez passer à l'acte, c'est quoi concrètement?
Oui.
Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde connaît réellement que l'agresseur numéro un qui écume et qui inquiète donc nos compatriotes de l'Est, c'est bien, bel et bien, le président Kagame avec ses supplétifs qui sont dans notre pays. Nous ne pouvons pas dire une chose et son contraire. Et quand vous regardez les verbes utilisés, on parle des annonces, on parle de ceci, on ne parle jamais de rupture. Il n'y a pas de verbe approprié. Moi, je pense que je salue la présence de la Cour, la CPI ici. Je pense que sa visite ne va pas rester seulement ici en RDC. Je pense que et ils vont traverser pour aller au Rwanda, pour enquêter, voir la situation au clair, parce que réellement, il y a eu des exactions et il y a eu crimes contre l'humanité. Et vous savez bien que dans de telles circonstances, la CPI est grandement ouverte. Et alors, je voudrais dire ceci. Le plus grand problème, c'est quoi? Il n'y a pas d'espoir de l'autre côté. Et nous devons, parce que vous vous souviendrez que la Rwanda peut défier les grands organismes comme les conseils de sécurité pour ne pas jusque-là faire taire des armes qui sont à l'Est. On parle de ceci, on annonce ceci, mais vous voyez à l'Est ce qui se passe. Il y a incendie, il y a ceci, et il y a l'administration qui est déjà mise en place. Vous avez déjà vu où on prend des mesures, mais l'ennemi progresse.
Donc voilà, Jérémy, pour vous, c'est clair, il faut la cessation des hostilités à l'est de la RDC et puis le retrait des troupes rwandaises. Voilà, merci Jérémy Mwamba depuis Lubumbashi. On va prendre le tout dernier, en tout cas on lui accorde une minute, c'est Jeannot Louembwe depuis là-bas. Jérémy, vous avez la parole. Jeannot, vous avez la parole. Allez-y.
Merci, M. Marcel. Je sens que les Congolais sont pessimistes par rapport aux efforts fournis par le gouvernement en appui par la communauté internationale.
Oui.
Mais je veux rester positif en disant, les Congolais ne doivent pas attendre que la communauté internationale nous amène Kagame sur le boulevard Grand Juin pour qu'on puisse le lapider. Mais moi, je reste positif en disant, de ce jour, le Rwanda est en train de se laisser montrer, découvrir le visage longtemps resté caché derrière l'histoire du génocide. 1994, pour attirer l'attention et la pitié du monde entier, surtout de celui occidental. Mais avec cette erreur qu'ils commettent de nous attaquer pendant 30 ans, tuant, violant, massacrant, intimidant surtout le Congolais, sans aucune inquiétude, vous allez voir que, avec l'avènement du gouvernement actuel, l'hypocrisie du Rwanda lui crée un retour des flammes. Moi, j'appelle ça retour des flammes. qui, heureusement, est en train de lui brûler le visage avec ces séries de sanctions qui lui tombent dessus comme l'amende dans l'Ancien Testament. Et moi, je crois que ces sanctions vont laisser à nu la pauvreté du Rwanda, hein, parce qu'on va lui retirer quand même ses aides qui font de son économie ce qu'elle est aujourd'hui. Ainsi, je viens ici pour juste encourager le gouvernement.
Merci.
Hein, de ses actions qu'il a de fournir. Moi, je viens en positif ici. Hein.
Voilà, merci Jeannot Louembwe. Depuis là-bas, on va conclure avec Christian Moleka. Christian Moleka, vous avez suivi le tout dernier, il faut positiver, parce qu'il faut le dire, il y a beaucoup qui sont pessimistes hein, par rapport à toutes ces sanctions, mais vous l'avez dit, c'est déjà une avancée, mais il ne faut pas croiser les bras.
La diplomatie est un jeu complexe et il faut que le Congolais apprenne à mieux comprendre le jeu diplomatique. Quels sont les objectifs des sanctions ? Les sanctions ne sont pas prises pour régler le conflit de manière définitive. Les sanctions sont des moyens de pression qui sont mis sur le Rwanda pour le ramener sur la table de négociation, pour arrêter l'offensive et permettre d'aller vers une solution négociée. Donc le but des sanctions, c'est de créer les conditions pour amener les différentes parties à retourner sur la table. C'est ça le but des sanctions. Donc, comme il y avait une dynamique de terrain qu'il fallait estomper pour donner la chance au dialogue et donc aux négociations, les moyens de pression, les leviers de pression ont été utilisés pour pousser les partis à revenir sur la table des négociations. Ça, le but des sanctions.
Mais vous avez suivi la suite qui
est... Donc, ce n'est qu'une étape.
Et la seule qui estime aussi longtemps qu'il n'y aura pas cessation des hostilités et que les troupes rwandaises resteront tous les totaux de la RDC. Ces sanctions n'auront aucun effet.
Si vous lisez les différents textes, il y a un mot qui revient. C'est que les sanctions ou les mesures seront prises selon l'évolution de la situation.
C'est le terrain.
Et donc, selon que les choses vont avancer dans les bons sens ou non, d'autres mesures viendront. Donc c'est une dynamique qui a commencé, qui est censée nous amener vers une solution négociée. Et au fur et à mesure que les décisions seront exécutées ou non, d'autres mesures accompagneront. Voilà pourquoi je dis qu'il nous faut comme État maintenir la pression, ne pas relâcher, pour que le tempo diplomatique, qui est un tempo assez long, puisse rapidement nous amener vers une évolution de terrain. Il ne faut pas se leurrer en pensant que nous avons gagné, et ce n'est qu'un petit pas, qui doit s'accompagner d'autres mesures et qui seront la conséquence soit de l'évolution sur le terrain ou non. Et c'est au Congo de maintenir la pression diplomatique, notamment sur les états clés, pour aboutir à ce que nous souhaitons. Mais fondamentalement, je le disais tantôt, la diplomatie, avec le retour de la force, s'est construite sur la matérialité militaire. C'est au Congo de construire les capacités à protéger son pays. Et ça passe par des réformes à l'intérieur. L'avantage du temps diplomatique, c'est que ça nous donne du temps de nous réorganiser militairement, quitte à ce que ce temps-là, nous la mettions sérieusement à profit pour qu'à un moment donné, nous imposions un rapport de force militaire sur le terrain.
Voilà, Christian Moleka, analyste politique, président de la dynamique des politologues de la RDC, spécialiste de la région du Grand Lac. Merci d'avoir été des nôtres.
C'est moi qui vous remercie pour l'invitation.
Fin de ce numéro de Parole aux auditeurs de séjour. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à Pierre Diassine, qui est à la mise, en nom de Julie Feza Bungunda et Elise Kavira, qui l'ont réalisé et coordonné, mais aussi à Nelson Nyombe de l'équipe multimédia. C'est grâce à lui que vous avez pu suivre, j'allais dire, ce magazine en direct sur YouTube, Facebook et X. Au micro, c'était Marcel Ngomomba. Le plaisir de vous retrouver dans un prochain numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, bon suivi de programme sur l'Afrique de la paix. Au revoir à toutes et à tous.